France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, nous rendons hommage à une grande voix de l'opérette d'après-guerre, Rudy Irigoyen, complice de Francis Lopez et Luis Mariano, mais aussi créateur d'ouvrages tels que Maria Flora ou Viva Napoli, pour évoquer Rudy Irigoyen, disparu en 2000. Je reçois son épouse Sylviane Irigoyen et son ami Fabien Attias, animateur à Lyon, de la compagnie Cala. En fin d'émission, second volet du portrait de Rissé Barrier par Martin Péné. Mais commençons donc par nous dégourdir les jambes sur un petit air de Cole Porter.
And pork and beans are taboo, 'cause I'm getting myself ready for you. To be sure of being worthy of you, dear, in every way, I'm building a perfect physique. And beside which I want you to holler hooray when first you see me and my soldiers speak. If you still feel I need a meal, I'll risk an olive or two. But I'm getting myself ready for you.
I'm getting myself ready for you, un extrait de la comédie musicale The New Yorkers en 1930. Et je dois vous dire que j'adore cette chanson. D'abord, à cause de la voix au perché de Smith Ballou, un de ces chanteurs crooners, pas loin de l'opérette, comme il y avait à l'époque, avec ici l'orchestre d'Emile Coleman. Et puis aussi à cause de ce ton tellement enjoué qui est caractéristique de ces comédies musicales des années 20-30 qu'on connaît malheureusement trop mal en France.
Thank you.
ça aussi, c'est une petite merveille. Et puis du sacré beau travail de studio comme on en faisait dans les années 60. Baby Elephant Walk d'Henri Mancini, le grand compositeur de musique de film. Ici, c'est un extrait du film Atari d'Howard Hawks, 1962 justement. Et ça fait partie de l'anthologie des 50 merveilleuses musiques de films parues chez Marianne Mélodie et rassemblées par notre ami Serge Laïc. Je crois que je vous l'avais déjà passé quand c'est sorti, mais je trouvais que ça valait la peine de le ressortir en ce début d'année.
Benoît Dutertre. Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Mais nous allons maintenant retrouver mes invités pour évoquer un grand chanteur de l'après-guerre dont le nom a été souvent associé à ceux de Francis Lopez et de Luis Mariano. Il a également créé de nombreuses opérettes, il a chanté Franz Lehár et d'innombrables mélodies. Nous parlons aujourd'hui de Rudy Irigoyen, grand chanteur, homme je crois très chaleureux que nous allons tenter de faire revivre ce matin avec mes deux invités, son épouse Sylviane Irigoyen et Fabien Attias.
On a chanté les Parisiennes, leur petit nez et leur chapeau. On a chanté les Madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On prétend que les Norvégiennes, filles du Nord, ont le sang chaud. Et bien que les Américaines soient les souveraines du monde nouveau, on oublie tout. Sous le beau ciel de Mexico, on devient fou. Au son des rythmes tropicaux, le seul désir qui vous entraîne dès que vous quittez le bateau, c'est de goûter une semaine à l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico, sous ton soleil qui chante, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico, les femmes sont arrêtantes. Et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Une aventure mexicaine, sous le beau ciel de Mexico. Ça dure à peine une semaine, mais quelle semaine et quel crescendo. Le premier soir on se promène, on danse un tendre boléro. Le deuxième, on se déchaîne, plus rien ne vous freine, on part au galop, on oublie tout. Sous le beau ciel de Mexico, on devient fou. Au son des rythmes tropicaux, si vous avez un jour la veine de pouvoir prendre le bateau, allez goûter une semaine à l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico, sous ton soleil qui chante, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico, les femmes sont arrêtantes et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Mexico, Mexico.
Un des plus grands tubes de toute l'opérette française, chanté non pas par Luis Mariano, mais par Rudy Irigoyen, qu'il a interprété presque aussi souvent que lui. Bonjour Sylviane Irigoyen.
Bonjour.
Voilà, voilà. Justement, c'est un morceau qui a un sens particulier pour vous, parce que vous avez vu, vous étiez une toute petite fille, Rudy Irigoyen, chanté Mexico, je crois, à Lyon.
à Lyon, j'avais 7 ans. J'étais très impressionnée quand je l'ai vue. C'est ma première opérette et c'est l'opérette qui a tout déclenché en fait.
Mais vous pensiez aller voir Luis Mariano à l'origine ou vous ne saviez pas très bien?
Je l'ai vu souvent, Luis. Je l'ai vu souvent et non, vraiment, Rudy, c'est la première opérette à 7 ans.
Alors vous ne saviez pas évidemment que quand vous auriez 30 ans passé, vous alliez finir par épouser ce grand chanteur.
Je ne savais pas du tout, non. Je ne le rêvais même pas, en fait. Ça s'est passé tellement bizarrement, parce que je l'ai suivi sans le suivre toute la carrière, mais je le voyais souvent. Et il m'a vu un petit peu grandir. Toutes les années, il venait pour... surtout la période de la foire à Lyon, il y avait des opérettes qui duraient 15 jours.
Ah oui.
Et du coup, on avait l'occasion de voir et revoir les opérettes des Cadix, des Andalousies. Il faisait beaucoup d'Andalousie et
ah oui, bien sûr, les Mexico. On va en reparler. Tous les rôles, donc, notamment créés par Luis Mariano, qu'il a repris et chanté à Paris et dans toute la France pendant des mois et des mois. Mais si vous avez pu découvrir comme ça, toute jeune, Rudy Irigoyen, c'est aussi, j'imagine, Sylviane Irigoyen, parce que votre famille devait être très passionnée d'opérette.
Ah oui, ma maman était surtout une fan de Luis Mariano.
Voilà, justement.
Voilà, elle était fan de Luis Mariano. Et c'est vrai qu'on allait souvent voir Luis aussi. Hein. J'ai vu énormément d'opérettes avec Luis. Il n'y avait pas que Rudy Irigoyen, il y avait Luis Mariano. J'ai vu les Visas pour l'amour, j'ai vu les Cadix, les Mexico avec Luis Mariano aussi, bien sûr. Mais ce qui m'a le plus marqué, je crois que c'est Rudy. Et voir la première opérette comme ça avec Rudy, ça m'avait impressionnée.
Bonjour Fabien Attias.
Bonjour Benoît.
Merci d'être avec nous à nouveau. Vous étiez venu voici quelques mois nous parler de votre compagnie d'opérette et d'opéra à Lyon, la Calade, et on en reparlera un peu tout à l'heure. Mais revenons à Rudy Irigoyen. D'abord, vous qui êtes chanteur aussi, vous avez vu, il fait des petites variantes par rapport à la version qu'on connaît bien de Mariano. Il se permet des petites fantaisies dans l'aigu.
Oui, bien sûr. Mais Mariano aussi. En fait, pratiquement tous les ténors en fonction de... Et je sais de quoi je parle, bien sûr, parce que...
Oui.
J'en ai assez chanté, moi
voilà,
aussi.
Ouais.
Tous les ténors, en fonction de leurs possibilités, de leur sûreté d'eux-mêmes et de leur qualité de leur voix, ils adaptent plus ou moins les morceaux à leur bravoure et à leur façon de faire. Quand on est professionnel, on le sait, ça n'est pas écrit. C'est chacun fait ses traditions. Et après, ça devient des traditions.
Voilà,
alors
exactement.
L'un imite l'autre et ainsi de suite. Et puis, ce qui devient tradition finit par être pratiquement officiel, tellement c'est une tradition.
En tout cas, elle est très, très jolie, cette version de Rudy Irigoyen.
Très beau.
Elle vaut largement
beau.
Celle qu'on connaît mieux de Mariano. Mais dites-moi, vous-même qui êtes depuis toujours un passionné d'opéra et d'opérette, Fabien Attias, c'est quoi votre premier souvenir de la voix d'Irigoyen sur scène, en disque, à la radio? Comment est-ce que vous l'avez découvert?
C'est aussi avec Mexico.
Ah oui.
C'est très étonnant. C'était à la télévision. J'étais avec ma mère. Moi aussi, il faut croire que les mamans font tout pour leurs enfants. Moi, ma mère m'a porté à bout de bras pour devenir un ténor et elle a fini par réussir. Et c'était à la télévision et j'entendais... Moi, j'étais aussi un fan de Mariano, bien entendu, entre autres, et d'autres voix qui ont poussé ma vocation, entre parenthèses, celle de Mario Lanza, qui comme Pavarotti et comme Domingo, m'a inspiré à devenir ténor alors que j'avais 7 ou 8 ans. Mais pour revenir à Rudy... On a entendu chanter un extrait de Mexico à la télévision. Il était donc en smoking et tout. Et moi, je disais, évidemment, fort de mon expérience, je disais, ça vaut pas Mariano. Ça a été ma première réplique. Mais après, petit à petit, j'ai appris à connaître, j'ai appris à voir que sa voix lyrique était extraordinaire et qu'il avait quand même une voix... différente de Mariano, mais beaucoup plus large, beaucoup plus puissante, capable d'aborder des opéras, alors que Mariano, c'était pratiquement de l'or qui coulait de sa gorge.
Alors, on va revenir à tout ça, en remontant peut-être d'abord un peu dans le temps et dans la vie de Rudy Irigoyen. Pour nous mettre dans l'ambiance, j'ai choisi une petite musique traditionnelle du Pays Basque.
Yeah.
l'ensemble Oldara qui chantait Donostiako Irudamatsko. Je suis pas sûr de bien prononcer le basque. Je pense que Rudy Irigoyen aurait pu me corriger, Sylviane Irigoyen. C'était sa première langue, en fait. Hein.
C'est sa langue. Et chaque vacances, chaque été, nous allions à Mandionde, dans son village. Et il parlait avec les anciens.
Oui.
Du Pays Basque, il parlait vraiment sa langue natale qu'il adorait.
Voilà, il a appris d'une certaine façon le français comme une deuxième langue presque.
Ah oui, oui, oui. Et quand il est arrivé à Paris, d'ailleurs, à l'école, ses petits copains, ils se moquaient à l'école parce qu'il avait un accent terrible.
Ah oui, c'est ça. Ouais. Il faut dire qu'à l'époque, ses parents travaillaient dans des grandes maisons à Paris, hein, oui. Chez les Montesquieu, dans des grandes oui. maisons de l'aristocratie, etc. Et oui. étaient donc au service de ces familles. Et donc, finalement, le petit Rudy a fini par les rejoindre à Paris, c'est ça hein ?
Oui, oui. Et c'est ce qui l'a amené à faire ce métier, parce qu'il est allé au Georges V pour y travailler. Il était groom là-bas. Il est rentré. Il a été coiffeur. Et ensuite...
On va entendre justement oui. un document où il évoque tous ces petits métiers qu'il a fait au début de sa carrière. On va retrouver oui. sa voix. Mais une question quand même à Fabien Attias. Finalement, c'est quand même assez curieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous le chanteur, le ténor, passionné d'opérette, que toute cette génération des Lopez, des Mariano, des Dasari, des Irigoyen est née dans la même région. C'est un mystère de l'histoire de la musique.
Oui, un mystère oui et non, parce qu'on sait aussi que c'est du Capitole de Toulouse que sont sortis la plupart des grands ténors.
Des grands ténors d'opéra, absolument.
Des grands ténors d'opéra, à quelques exceptions près. Alain Vanzo vient de Nice,
oui.
mais pratiquement tous.
Mais il y a quand même ce sud-ouest oui. qui a été à l'époque
Tout à fait.
Vraiment une pépinière.
Le berceau des voix vient de là-bas. Il faut croire que c'est peut-être la langue qui fait ça, une langue qui est ouverte, qui est avec un accent ouvert, un petit peu comme les Italiens. C'est pour ça qu'il y a cette voix chantante, parce que quand il parle, il chante déjà.
C'est ça, voilà. Il avait gardé l'accent, Sylviane Irigoyen, votre
non,
mari, Rudy ?
Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout.
Alors, on va justement donc le retrouver dans cette interview de 1958, où il nous parle de ses débuts, que vous avez évoqué à l'instant, les petits métiers d'abord, et puis ensuite le conservatoire.
C'est-à-dire que beaucoup de métiers, évidemment, j'en ai fait 4 ou 5, quoi. C'est
oui,
déjà pas mal.
Lesquels ?
Mais écoutez, j'ai fait même le porteur de journaux, j'ai fait le coiffeur, j'ai fait le chasseur d'hôtel. Vous voyez, c'est déjà pas mal.
Et un beau jour, vous vous êtes mis à chanter. Je suppose que ça ne vous est pas venu tout seul, ou plutôt que ça vous est venu tout seul de très bonne heure.
Eh bien, oui, j'ai toujours eu une voix naturellement assez agréable. Et alors, du temps, j'étais chasseur à l'hôtel Georges V, nous avions un client qui s'appelle Monsieur Kipoura, Monsieur Jean Kipoura. Et mon Dieu, j'étais un petit peu attiré tout de même, mais je ne pensais jamais arriver à faire le métier. Je me disais, mon Dieu, oui, c'est formidable, il a une voix extraordinaire. Mais personnellement, je ne pensais jamais chanter. Puisque ensuite, après l'hôtellerie, j'ai fait la coiffure, et je suis resté 5 ans coiffeur. Et accidentellement, nous avions des amis qui habitaient dans le même établissement que nous, dans le même immeuble. Et un jour, une personne me dit, vous savez, je vous ai fait inscrire dans un crochet... Je dis, comment on m'a fait inscrire ? Oui, 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 je vous ai fait inscrire, parce que vraiment, avec la voix que vous avez, je veux absolument que vous alliez concourir. Alors, évidemment, je tombais des nues, parce que je m'y attendais tellement peu.
Elle me dit, on vous a poussé l'épée dans les reins.
Ah, carrément. Alors, je me suis loué un tout petit costume, un petit smoking bien étriqué, et je suis parti faire mon petit concours. Et là, j'ai été lauréat.
Et vous aviez un trac terrible ?
Ah, j'avais un trac terrible.
Et vous avez chanté quoi ?
Eh bien, j'avais chanté une chanson qui s'appelait Tiri Tomba.
Vous n'avez pas ce disque, naturellement.
Ah, je ne l'ai pas, non,
malheureusement. Vous n'avez
pas enregistré.
Vous pouvez nous le fredonner ?
La chanson faisait Tiri Tomba, Tiri Tomba, les jolis yeux que voilà, oui que voilà, Tiri Tomba, Tiri Tomba, les jolis yeux que voilà. Oui, c'est une chanson très alerte et qui avait d'ailleurs beaucoup de succès, puisque je l'ai chantée dans d'autres crochets et j'ai décroché le premier prix avec ça.
Toi, ma belle Andalamie, reviens, reviens à la vie. Voici le plus beau des jours. Viens, ouvre tes paupières. Tu liras dans mon cœur des mots remplis de lumière. Bien toi, mon amour, et toi, ma belle au bois dormant, je sais depuis toujours que tu m'attends. Dans mon cœur, j'ai pour toi toutes les fleurs du printemps, à qui les ponts d'aimer longtemps. Ah, réveille-toi, ouvre les yeux, laisse pour moi tes rêves bleus. Ah, je veux frôler par un baiser tes doigts de paix. Viens à toi pour toujours, voici la phrase charmante. Viens mon amour au bois dormant. Mamie, parrainez-moi les plaines. Mamie, nous irons tous deux. J'aurai tes grands yeux d'ébène pour lire un premier aveu. Viens, laisse-toi conduire. Reprends ton joli sourire, le ciel te fera la cour. C'est bien toi, mon amour, toi, ma belle au bois dormant, je sais depuis toujours que tu m'attends. Dans mon cœur, j'ai pour toi toutes les fleurs du printemps, à qui les ponts d'aimer longtemps. Réveille-toi, ouvre les yeux, laisse pour moi tes rêves bleus. Ah, je veux frôler par un baiser tes doigts de paix. Viens à toi pour toujours, voici la grâce charmante. Viens mon amour au bois dormant. Viens mon amour au bois dormant.
Ma belle au bois dormant, un des premiers enregistrements de Rudy Irigoyenne, une chanson de Maurice Vander et Henri Bourter avec l'orchestre Marius Coste. Et c'est d'ailleurs comme beaucoup d'autres morceaux réédités chez Marianne Mélodie. Ça vous a fait drôle d'entendre la voix du jeune Rudy Irigoyenne juste auparavant, Sylviane Irigoyenne?
Ah, c'est la voix que j'aime bien. C'est cette voix de soleil bien claire. En plus, c'est une chanson qui est pour moi, parce que c'était mon prince charmant. Vraiment.
Ah oui, vraiment. En tout cas, on voit ce chanteur qui est entré, comme beaucoup de sa génération, dans le métier, un peu sur le tas, et notamment par les crochets. Hein.
Oui.
Il a fait beaucoup de concours de ce genre, et, tout en entrant au conservatoire. Et il dit même ailleurs dans cette interview que finalement, on l'a même viré du conservatoire parce qu'il faisait des concours de chant, parce que c'était interdit au conservatoire.
Tout à fait. Il a chanté aussi l'opéra, hein. On oublie de le dire aussi. Il a chanté de l'opéra parce qu'il est arrivé à l'Opéra de Paris, il a fait le concours des ténors. Il est sorti quand même le premier sur 101 ténors en chantant la bohème.
Voilà, et c'est justement là où le conservatoire n'a pas vu ça d'un très bon œil. Mais finalement,
voilà.
Il a continué le métier. Il s'est fait engager au Châtelet dans une position que je connaissais pas, qui est triplure. Parce que je savais qu'il y avait des doublures pour les chanteurs, mais il y avait aussi des triplures. Expliquez-nous. C'était pour remplacer la doublure, c'est ça, hein?
Exactement. Mais lui-même, après, il a eu une doublure. Et oui. C'était Alain Vanzo, la doublure. Ça,
ah,
c'était
oui.
Surprenant. Dans le Pays du Sourire, c'était Alain Vanzo, oui, la doublure de Rudy. Donc, il fallait attendre que le ténor soit vraiment à faune pour remplacer. Et c'était vraiment subi, parce que lui, ça lui est arrivé comme ça, en fait. Hein. Il a été, je crois, pour Valse de Vienne. Je crois bien que c'est Valse de Vienne.
Valse de Vienne, en fait. Absolument, au Châtelet.
Voilà, voilà.
Et puis tout de suite après, il a été également remarqué par Henri Varnat, directeur du Casino de Paris, qui l'a, je crois, également encouragé. Fabien Attias ?
Oui, je voulais juste rebondir sur la fin de cette ère et cette demi-teinte extraordinaire dont il avait le secret. Et c'est ça qui a fait en fait la différence. C'est cette demi-teinte de vrai ténor qui est un petit peu différente de celle de Mariano, qui était plus en voix de poitrine et qui était plus ensoleillée. Ouais. Et c'est ça qui a fait la grande différence entre les deux.
On a un sentiment de facilité, d'aisance dans cette... Quand il monte là très haut.
Tout à fait.
C'est très très bel enregistrement.
C'est tout Rudy là-dedans.
Voilà. Alors on va évoquer maintenant l'année 1947 qui est très très importante. On le dira dans un instant parce que c'est le moment où il a commencé à lui-même remplacer Mariano dans de très nombreuses représentations. Mais c'est aussi l'année où il a commencé à chanter Le Pays du Sourire. Je crois que c'était une œuvre qui lui tenait particulièrement à cœur, Sylviane Érigoyenne.
Il adorait cet ouvrage et c'était, pour lui, c'était peut-être plus lyrique, en fait. C'était un personnage assez dramatique.
C'est
quand
ça.
Même, parce que c'est pas une opérette du tout comme les Lopez, hein. Ça le changeait complètement.
C'est romantique, en fait, oui.
Et ça lui allait très bien. Rudy n'était pas grand. Il était vraiment très, très beau en Souchong. C'était vraiment un beau Souchong. J'ai eu la chance de le voir.
Alors, c'est une œuvre qu'il a chantée d'ailleurs à plusieurs reprises dans sa carrière. Et justement, on va retrouver une autre interview où il nous explique un petit peu cette importance et cette difficulté du rôle du Pays du Sourire.
J'ai l'habitude de jouer des opérettes où je suis très détendu, où tous ces rôles d'espagnol. Ça, et là, mon Dieu, c'est tout à fait l'inverse. Je suis vraiment... Je rentre en moi-même, je suis très, très concentré, et c'est ce qui me fatigue le plus dans ce rôle, d'ailleurs, à part la partie chantée, qui, vous savez, comme moi, que ce rôle n'est ni ténor, ni baryton, et il y a tout de même certaines difficultés, par exemple, nous qui sommes ténors, eh bien, ça semble grave, vous voyez, moi j'ai des airs, je suis obligé de monter, par exemple, de tessiture.
Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lorsque vous avez abordé pour la première fois ce rôle et cette partition ?
Eh bien, la première fois, j'ai joué ça en 48. Je dois dire que j'ai joué 8 mois en suivant à la Gaîté Lyrique à Paris. Et tout de même, j'étais encore un jeune du métier. Et je n'avais pas tout de même les ficelles et la technique vocale que j'ai actuellement, ce qui me permet de surmonter les difficultés de ce rôle. Et je dois dire que quand j'ai terminé les 8 mois, je me suis dit, je crois que jamais plus je ne jouerai ce rôle. Car j'ai fini un peu épuisé, je dois dire.
Oui, bien sûr.
Et en effet, je suis resté 7 ans sans jouer Le Pays du Sourire. Et quand je l'ai repris, ça a été tout à fait autre chose. Car j'avais mûri au point de vue métier et mûri au point de vue âge aussi, naturellement. Donc la voix était beaucoup plus formée qu'auparavant. Et de nouveau, je suis resté plusieurs années sans le jouer, et maintenant je viens de le reprendre cette année. Alors là, c'est tout à fait autre chose, parce que je m'y suis installé facilement, et on me le demande un petit peu partout.
Reste en moi, ton souffle parfume mon ivre. Je n'ai qu'une raison de vivre, toi, rien que toi.
Le pays du sourire de Franz Lehár par Rudy Irigoyen. Cette œuvre, bon voilà, il nous a expliqué lui-même combien elle l'a accompagné tout au long de sa vie. Fabien Attias, votre impression de cet enregistrement ?
J'attends la fin et je suis encore complètement surpris, malgré que je le connaisse à fond et que je l'ai,
ah oui,
Rudy, je suis surpris de cette vaillance, de cette qualité de timbre, de cette façon de chanter. C'est vrai que ça lui collait à la peau. Et
c'est tout... très différent de la voix légère qu'on a entendue tout à l'heure, d'ailleurs.
Tout à fait, tout à fait. C'est bien pour ça que je disais que c'est pas le même ténor. Et c'est complètement compréhensible ce que disait Sissi tout à l'heure, en disant que c'était Vanzo qui avait été choisi pour le remplacer au cas où Rudy aurait été fatigué. C'est qu'il n'y en avait pas d'autre en France pour faire le pays du sourire que Vanzo.
Bien sûr. Sissi, vous avez cité à l'instant, Sissi, c'est Sylviane. Hein.
Oui.
c'est depuis quand on vous appelle Sissi, Sylviane?
C'est justement, c'est à l'Opéra de Lyon. C'était le directeur, M. Camerlo, qui m'avait... Ah. Quand j'étais très petite fille, il venait, il me disait « Oh, la petite Sissi est là et... ».
Ah, mais vous passiez vraiment votre vie à l'Opéra, alors?
Ah, j'étais beaucoup à l'Opéra, oui.
Ah, oui,
j'étais beaucoup à l'Opéra. Et c'est... ce qui est surprenant aussi, c'est que je regardais petite, enfin, j'écoutais les ouvrages, les Vies de Bohème, les Traviata, et j'étais déjà un mélomane.
Vous deux qui êtes de Lyonnais, les opérettes en tournée, les grandes productions, elles passaient parfois aussi à l'Opéra de Lyon, pas seulement dans les autres théâtres.
Elles passaient principalement à l'Opéra.
Principalement à l'Opéra, d'accord.
Il n'y avait pas d'autres salles.
D'accord, les opérettes se donnaient à l'Opéra, d'accord, parce qu'il y avait les Célestins, il y avait des salles d'opérettes à Lyon quand même.
Oui, mais c'était avant les Célestins, avant cette période où il y avait une saison d'opérettes aux Célestins. Après, il y avait la saison d'opéra comme dans tous les opéras, où il y avait les opéras et les opérettes. Mais la seule différence, c'est que maintenant, on joue pratiquement une opérette par an dans une grande maison, alors qu'à cette époque là-bas, c'était une opérette par semaine et un opéra par semaine.
Bien sûr.
C'était vendredi soir l'opéra, samedi l'opérette, dimanche l'opéra.
Ah, vous me faites rêver là, mais malheureusement, c'est loin.
Et vous devez bien savoir, Benoît, vous rappelez peut-être que Michel Danse, qui doit résonner chez vous, Michel Danse était
Michel
capable
Danse,
de jouer Brissac dans Les Mousquetaires le samedi après-midi et de passer à Valentin de Fosse le samedi soir. Des fois même, il y a des anecdotes qui disent qu'il se trompait de costume.
Alors, l'année 47-48, donc c'est le pays du sourire, mais c'est aussi cette chose qui va marquer à tout jamais la carrière d'Irigoyen, c'est-à-dire que après les triomphes de Lopez et Mariano, évidemment, Mariano ne peut pas assurer toutes les représentations. Et c'est Irigoyen qui va faire les tournées, qui va faire les reprises dans les théâtres à Paris. Il va devenir l'alter ego un peu de Luis Mariano. D'abord dans La Belle de Cadix, ensuite dans Andalousie, dans Le Chanteur de Mexico, etc. Comment est-ce qu'il vivait ce fait d'être au fond, peut-être un petit peu dans l'ombre de la star qu'était Mariano, même s'il a connu lui-même beaucoup de succès avec tous ses rôles, Sylviane Irigoyen.
De toute façon, là, il y a vraiment une polémique là-dessus, parce que je vais vous dire, j'ai toujours entendu des choses pas possibles là-dessus.
Il y aurait eu une guerre des Marianistes et des Irigoyeniens.
Pas du tout. pas du tout. D'ailleurs, nous avons passé énormément de vacances à Arkhang et parce que justement, Patchy Lacan adorait Rudy.
Oui.
Et il nous aurait pas reçus comme ça s'il y avait une polémique entre les ténors. Et Mariano, Luis, aimait beaucoup Rudy. Il lui avait dit « Tu es le seul qui puisse prendre la relève ». Et il a fait la série des Cadix qu'il ne pouvait plus faire. Et quand Rudy allait le voir dans sa loge, il était extrêmement fatigué. Il lui disait « Mais Luis, arrête-toi, tu n'en peux plus ». Et il disait « Oui, mais tu te rends compte, je mets tout le monde dans l'impossibilité de travailler. J'arrête tout et je mets des gens au chômage ». Et il pensait à ça en étant malade, voilà. Mais il n'y a jamais eu de polémique.
Donc il y avait une vraie sympathie entre
ces deux grands artistes.
Oui.
Une admiration. Rudy me disait tout le temps qu'il y avait une admiration parce qu'il l'a vu extrêmement fatigué. On ne va pas parler de ça parce que c'est assez triste. Mais il l'a vu fatigué. Et il m'a dit qu'il allait jusqu'au bout de ses forces avec un courage, une force de caractère. C'était un homme exceptionnel et ils s'aimaient beaucoup tous les deux.
Rudy Irigoyen, donc, on le sait, on l'a dit, a beaucoup chanté tous ses rôles créés par Mariano. Il a également chanté d'ailleurs des rôles créés par Tino Rossi, notamment Méditerranée ou Naples au baiser de feu, qu'il a également repris pour beaucoup de représentations. Mais il a bien sûr aussi créé quelques opérettes, et là je voudrais quand même qu'on s'arrête un peu plus à ça, et notamment par exemple en 1957 au Châtelet, Maria Flora de Henri Betti.
Mademoiselle, mademoiselle, vous êtes parisienne ? Oui ? Ah bien, moi j'arrive de mon petit village et je ne connais pas votre jolie ville. Vous voulez bien me servir de guide ? Vraiment, vous acceptez ? Ah, merci. Ce sera si gentil de dire auprès de vous. Bonjour, bonjour à Paris. Nous sommes ravis de voir aujourd'hui la ville la plus belle. Bonjour, rue de Rivoli. Qui nous conduit par les Tuileries au quai de la Tournelle. Tout le long, des arcades. Nous allons, pas à pas vers l'île Saint-Louis. Vraiment, quand on a le temps, c'est un agrément d'aller doucement en promenade. Et la vie nous sourit quand on dit bonjour à Paris. Bonjour à Paris. Nous sommes ravis de voir aujourd'hui passer les midinettes. Bonjour, les petits trottins qui font en chemin du soir au matin tourner toutes les têtes. Nous voulons tout connaître. Nous irons, place du Tertre, dire un petit bonjour. À Mimi Pinson, qui doit sans façon chanter des chansons à sa fenêtre. À la fin d'un bonjour, nous irons tout là-haut, du haut de la tour. Cette nuit, dire aussi dans un cri, bonsoir à Paris.
Maria Flora, une opérette d'Henri Betti, qu'on connaît aussi pour C'est si bon et quantité de succès. C'était en 1957, ici enregistré avec les chœurs de Paul Bonneau. On va en écouter en tout cas quelques autres, mais je voudrais qu'on revienne un petit peu à la à la personnalité de Rudy Irigoyen. Alors Sylviane, vous nous avez dit tout à l'heure, c'est en fait à 35 ans que vous avez vraiment rencontré à nouveau, après l'avoir beaucoup suivi, Rudy, et que vous avez commencé à vivre voilà. ensemble. Il avait déjà été marié deux fois, hein.
Oui, oui, oui. Je suis la dernière épouse.
Sa troisième épouse.
Voilà. Et la troisième épouse.
Il vous a entraîné notamment dans cette maison près de Paris où il vivait la plupart du temps, où il avait une vie qui vous a tout de suite enchanté et fasciné, une vie d'artiste, quoi.
Quand il avait des jours de congé, il recevait ses amis parce que...
Ça se trouvait où ?
À Versailles, à côté de Versailles. Voilà. D'ailleurs, la maison est toujours là et elle existe toujours. Et il a une fille donc qui habite dans cette maison.
Et là, il faisait aussi bien du sport, de la peinture, toutes sortes d'activités.
Il faisait plein de choses. Oui, oui, il faisait plein de choses et il aimait faire la cuisine. Il faisait beaucoup de cuisine basque, évidemment.
Ah, basque, bien sûr.
Il recevait des amis comme son ami José Todaro, Carlo D'Angelo et bien d'autres.
Miguel que des ténors. Cortés.
Non, pas forcément. Michel Danse venait. Nous avions aussi son ami Arta Verlaine et Nick Varlan, qui était un grand producteur à l'époque, parce que lui, il faisait des grandes tournées ensemble. Ils étaient très, très proches. C'était une partenaire vraiment charmante. Janine Ribaud, il recevait Janine Ribaud, avec qui il avait chanté les Méditerranées.
Et qui était restée une grande amie, hein, je crois, oui.
Ah oui, Rudy, tout le temps. Et puis, vous savez, je continue à avoir ces gens régulièrement qui m'appellent, qui parlent de Rudy. Il est toujours là, quoi. Il est toujours présent.
Vous vous rendez compte qu'il aurait presque 100 ans aujourd'hui ?
Oui. Ça me fait drôle parce que c'est vrai qu'on a une grande différence d'âge, donc je me rends pas compte du tout, mais c'est vrai que quand je pense à ça, je me dis bon, ben, pourquoi pas, il aurait pu vivre jusqu'à
100 ans. Alors, une chose qui est frappante dans le petit livre que vous lui avez consacré, c'est justement son talent de peintre, hein. Il y a des reproductions d'huile et de pastels. Il aimait beaucoup la peinture en dehors de
ça. Oui, il adorait faire des pastels. Les pastels, c'est la craie, hein. C'est une craie avec beaucoup de couleurs et il faisait les ciels. Et Rudy observait beaucoup la mer quand il était à...
Dans son Pays Basque.
Dans son Pays Basque, ou même en Italie ou en Espagne, peu importe. Mais son Pays Basque, surtout, il a fait beaucoup, beaucoup de pastels du Pays Basque, oui.
On va écouter un extrait d'une autre de ses créations. On arrivera bientôt à Viviane Apoli, que vous connaissez fort bien tous les deux. Mais d'abord, une autre création un peu oubliée, elle aussi, et c'est aussi ma mission de faire revivre ces opérettes oubliées, c'est Farandole d'amour de Jacques Ledru, qui est d'ailleurs déjà venu plusieurs fois dans cette émission, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Et c'était ça en 1962.
Saint-Jean, les garçons s'en vont vers le fronton pour retrouver leur belle. Et ils lancent pour elle leur plus fière chanson. Je ne viens plus ce jour-là retrouver Gachoucha, mais d'autres nous remplacent. Et les amants s'enlacent comme nous autrefois. Viens dans les feux de la nuit, chaque fille aujourd'hui doit trouver un mari. Dans l'attente de l'amour qui viendra t'accueillir, pense et pense aux baisers que tu pourras cueillir. J'ai retrouvé Gachoucha, un garçon à son bras et ses éclats de rire joyeux semblait me dire, nous deux c'est loin déjà. Elle n'a pas deviné que rien n'est oublié, que ma peine est la même, et que toujours je l'aime, et toujours l'aimerai. Ainsi les feux de Saint-Jean consument les serments qu'éparpille le vent. Tendre, insouciante, un amour remplace un autre amour. Danse et ne pense qu'au bonheur volé au jour le jour. La 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 la
Farandole d'amour en 1962, encore un enregistrement qu'on peut retrouver chez Marianne Mélodie. Vous connaissez Mathieu Moulin, cher Sylviane Érigoyenne.
Ah, c'est un ami. Ami, Mathieu.
On peut dire que c'est un vraiment. Militant de la cause, hein. Vraiment, il a publié beaucoup de disques chez Marianne.
Oui, c'est un fan de Rudy et il y a très longtemps que je connais Mathieu et que on se téléphone et on est très très amis avec Mathieu. Oui.
Fabien Attias, vous nous avez dit tout à l'heure quand est-ce que vous aviez entendu pour la première fois Rudy Érigoyenne à la télévision, mais alors votre première rencontre d'homme à homme, c'est pas situé à quel moment ?
Et paradoxalement, je l'ai rencontré très tard,
oui.
Vraiment tard, parce que évidemment, on a l'impression de le connaître à force de suivre et tout, mais on s'était pas vu. Comme je regrette d'ailleurs de ne jamais avoir vu vivant Luis Mariano, je le regrette. J'aurais bien voulu le voir au moins une fois et lui serrer la main, mais bon. Et Rudy, je l'ai rencontré très tard. C'était dans les années 80, 84, alors que j'étais déjà à Lyon et j'avais déjà commencé mon épopée d'opérette, tout doucement. Et on avait mis en place, programmé, encore une fois, le chanteur de Mexico, décidément, au Théâtre Antique de Fourvière, et on avait programmé 5 représentations. Et quand Rudy est arrivé, on s'était vu quelques années avant, on avait sympathisé, etc. Et il m'avait toujours encouragé dans ce que je faisais à Lyon. Et il m'a dit, écoute Fabien, je suis piégé, j'ai 2 représentations en alternance que j'ai été obligé de prendre à Lille, au Sébastopol, alors tu vas me remplacer, tu vas chanter le rôle à ma place. Je me suis retrouvé à chanter Mexico, un soir lui, un soir moi, un soir lui, un soir moi, 5 fois. Il en a fait 3, j'en ai fait 2, et ça a été un souvenir pour moi absolument extraordinaire, parce que chanter à Fourvière devant 4000 personnes, c'est quand même quelque chose.
Il n'était pas encore lyonnais à l'époque.
Il n'était pas encore lyonnais, mais il est venu très vite après. Il est venu dans les années 90, 3-4 années plus tard.
C'est vous, Sylviane, qui l'avez entraîné dans votre ville natale ?
Oui, je l'ai entraîné, mais Fabien aussi l'a entraîné.
Ah bon ?
Parce que Fabien lui a demandé plein de choses, plein de conseils, plein de... Et du coup, ça nous a motivés pour nous installer là. Et vous voyez, je suis toujours au théâtre, je suis toujours au bureau, je suis toujours... on décide des distributions avec Fabien, on est très proches.
Le théâtre, et... donc, où vous donnez vos représentations, qui est, il faut le rappeler...
La salle Albert Thomas, la Bourse du Travail, qui est la seule salle lyonnaise qui a été recréée en 2000 pour recevoir du lyrique, après ma convention avec la ville de Lyon. Donc, pour toutes les opérettes, c'est la Bourse du Travail, et pour les opéras, c'est l'Amphithéâtre 3000.
Voilà, alors ça, on va y revenir dans un instant à votre saison, mais je voudrais qu'on évoque encore les dernières grandes créations de Rudy Érigoyenne. Il y a eu notamment Rendez-vous à Paris de Lieferman, hein, qui a été créé justement au Théâtre Sébastopol de Lille en 1968. Et puis l'année suivante, donc ce Viva Napoli de Francis Lopez, qui est vraiment, alors là pour le coup, une création d'Érigoyenne, contrairement à toutes les pièces où il a repris le rôle de Mariano, et c'est une pièce qui vous tient très à cœur, tout les deux.
Oui, parce que Rudy demandait toujours à Francis de lui faire un ouvrage pour lui.
Oui.
Et quand il a fait ce Viva Napoli, c'était vraiment pour lui et il se sentait très à l'aise dans ce personnage.
C'était du sur-mesure, mais il jouait le rôle de Bonaparte, c'est ça ?
Oui, mais il se dédouble. Le personnage, c'est Gino Bonaparte.
Voilà.
Et en fait, c'était pas évident à faire parce qu'il faut changer de costume, de personnage et de caractère. Et c'est assez difficile.
Vous l'avez vu, Fabien Attias, Viva Napoli, vous aussi ?
Oh oui, c'est extraordinaire. Il faut dire que Rudy, dans le rôle de Bonaparte, c'est bien dommage qu'on n'ait pas vu de Bonaparte en vidéo, mais j'ai l'impression que c'est un mimétisme absolument époustouflant.
Ah oui, il y a aussi Serge Lama qui s'y est risqué.
Serge Lama, bien sûr, qui était bien d'ailleurs aussi.
Ils allaient se voir à l'époque.
Qui était bien aussi, oui, je crois qu'ils allaient se voir mutuellement.
Oui, oui, oui.
Mais l'opérette Viva Napoli est beaucoup plus proche. C'est une anecdote, une histoire un petit peu vécue, un peu arrangée de Bonaparte à Rome. Et évidemment, profitant de l'arrivée d'un sosie, il a trouvé l'occasion inespérée de se plonger à l'intérieur du pays pour aller découvrir quelques secrets. Et puis après, il revient en Bonaparte. Et il savait donc, je ne vais pas raconter l'histoire, elle est toujours un peu compliquée, l'opérette. Mais ce double rôle du petit porteur d'eau qui est naïf et qui est gentil, et puis dans le tableau d'à côté, c'est le même Rudy qui campe un Bonaparte plus vrai que nature. Ça, c'est une performance d'acteur.
Salta, salta.
de simples soldats. Au milieu du combat, vous êtes devenus de jeunes loups. Soldats, soldats, je suis content de vous. Sans reprocher, sans peur, avec tout votre cœur, vous avez triomphé partout. Nous avons livré bataille pour avoir la liberté. Vous avez eu le courage de lutter pour refuser, pour sauver de l'esclavage le beau ciel de ce pays. Soldat, soldat, je suis content. Quand vous rentrerez plus tard dans vos foyers, vous pourrez dire un jour au nom de nous, soldats, soldats, que vous avez partout, venir en combattant, la victoire en chantant, la République est fière de vous, soldats. La République est fière de vous. Soldats, 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 soldats.
Rudy Irigoyen dans le rôle de Bonaparte, c'était Viva Napoli de Francis Lopez en 1969. Il faut préciser d'ailleurs, là vous étiez déjà marié, Sylviane Irigoyen, qu'il a encore créé une autre opérette, une des toutes dernières de Francis Lopez qui s'appelait Fandango.
Voilà, Fandango.
Et c'était en 1987.
Et alors là, il s'est beaucoup, beaucoup fatigué. Parce qu'il en faisait des fois deux, trois par matinée, commençait à 1h de l'après-midi pour terminer très tard le soir. Et là, ça a été beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue.
Il avait là pas loin de 70 ans. C'est toujours compliqué la fin d'une carrière de chanteur. Quand est-ce que ça s'arrête? À quel moment on décide d'arrêter de chanter? Comment ça s'est passé pour Rudy Irigoyen?
Pour Rudy, il a eu un problème de santé en fait. Et je crois que ça l'a motivé pour s'arrêter parce que il voulait pas faire voir qu'il avait un léger handicap à un bras. À la suite d'ailleurs peut-être d'une chute, on n'a jamais trop su ce qu'il avait eu. Mais bon, c'était ni des maladies qui ont duré, ni rien. Mais enfin, disons qu'il était obligé de s'arrêter.
Il voulait être parfait sur scène.
Voilà, il voulait pas faire voir qu'il avait certains jours, c'était pas tous les jours en plus, des petits problèmes. Et puis je pense que la voix aussi changeait. Et il me disait toujours, pourquoi faire des rôles de jeune premier quand on n'a plus l'âge d'être un jeune premier? C'est ça qui tue l'opérette, c'est ça. Il faut
Bien sûr.
Ce soit plausible, voilà.
Alors vous, Fabien Attias, vous chantez toujours des rôles de jeune premier?
Non, oh non, justement, pour répondre à votre question, comment on s'arrête? Je crois qu'on s'arrête tout naturellement, parce que le public ne veut pas qu'on s'arrête, et les propositions de rôle aussi continuent. Mais nous, on sait bien qu'on peut plus, justement, on peut pas être comme moi, dire il faut sauver l'opérette en mettant des distributions jeunes pour faire venir le jeune public autour, et en même temps s'accrocher à continuer à faire des rôles de jeunes premiers qui se marient à 20 ans et qui se terminent toujours par des mariages avec une jeune fille de 20 ans, c'est plus possible. Alors donc, la seule façon de s'en sortir, c'est de mettre, et Dieu sait s'il y en a maintenant, paradoxalement plus que jamais, des beaux acteurs jeunes avec des voix du bon Dieu qui sont magnifiques et qui déferlent dans le métier, alors que on n'a plus tellement de propositions à leur faire. C'est un petit peu une de mes grandes tristesses.
Une de vos grandes tristesses, mais vous, vous vous battez, hein, on va le rappeler, donc à Lyon, avec la Cala, pour vraiment que l'opérette continue à être bien présente dans la seconde ville de France, enfin ou la troisième à voir avec les Marseillais, mais c'est quand
la
même... Mais bah, il faut dire que l'opérette est très bien défendue à Marseille aussi, d'ailleurs, je dois le dire.
Oui.
C'est un peu une exception.
Oui.
Et la saison donc est bien en cours. Vous avez donné, d'ailleurs, au moment des fêtes, L'amour masqué de Messager et Guitry. C'est un choix personnel que cette merveilleuse comédie musicale?
Oui, c'est un choix personnel. D'abord parce que c'est du Messager et que c'est dommage qu'il ait de moins en moins joué, à part Véronique. Et il faut à tout prix éduquer le public et les forcer à venir. En y adjoignant le nom de Sacha Guitry, qui quand même, moi qui viens d'écrire un livre et qui fait partie de l'Union des écrivains, j'ai toujours assez touché par Sacha Guitry, et je me suis dit que le jumelage des deux noms, ça devrait quand même marcher.
Bien sûr.
En y rajoutant une magnifique soprane qui s'appelle Perrine Madeuf, évidemment, qui a eu le lourd héritage de jouer derrière Yvonne Printemps, ce qui n'est pas rien, je me suis dit que c'était quand même un bon cocktail pour faire quelque chose de bien.
Et bien justement, on va écouter la grande Yvonne dans trois tout petits extraits qui s'enchaînent dans un pot-pourri merveilleux de L'amour masqué.
Si tous les hommes nous diffament, même parfois s'ils nous proclament plus criminels que nous ne le sommes, s'ils nous accusent et nous blâment, il faut avouer qu'en somme, si le plus grand plaisir de l'homme est de s'offrir le corps des femmes, le plus grand plaisir de la femme est de se payer la tête des les hommes. On le possède à 50 ans comme à 18, et c'est le charme. Eh bien, il faut lui souhaiter de conserver toute sa vie cette suprême qualité que la plus belle nous envie, qui fait dire aux gens: c'est vrai, elle n'est pas très intelligente, elle a le menton un peu de travers, le bleu de ses yeux est plutôt vert, elle est ceci, elle est cela, et je la crois très ignorante, évidemment, seulement, voilà, elle est charmante.
La merveilleuse Yvonne Printemps, je ne sais pas si vous aimez cette voix si singulière, Fabien Attias.
Oui, oui, bien sûr. Ça, on ne chante plus comme ça maintenant, mais c'est toute une époque.
Oui,
c'est
vraiment.
Toute une époque. J'ai été bercé avec ça.
En tout cas, bravo pour ce que vous continuez de faire à la Cala. Et on a bien compris votre souci qui est celui de beaucoup d'artistes aujourd'hui. C'est-à-dire que, au fond, les voix sont là, les tempéraments, les personnalités sont là, mais il y a si peu de production d'opérette, notamment aujourd'hui, qui n'ont pas beaucoup de place pour s'exprimer.
Oui, c'est surtout parce que l'opérette est très très chère et évidemment parce qu'il y a beaucoup de monde, tout simplement, pas
et
parce
oui.
qu'elle est plus chère qu'autre chose. C'est parce qu'il y a des chœurs, il y a un orchestre, il y a des ballets, il y a les solistes, il y a les décors, il y a les costumes, il y a les droits d'auteur qui nous écrabouillent. Ça, c'est un autre débat. Et donc, la recette n'y arrive plus, surtout que le public, vous savez, on traverse des temps difficiles et les gens n'ont plus tellement de moyens. Avant, ils venaient à 3 spectacles, ils n'en viennent plus qu'à 2. Ceux qui venaient à 2, ils n'en viennent plus qu'à 1, etc. Donc, on a moins de recettes et plus de dépenses. Automatiquement, ça devient difficile. De faire vivre une saison.
Mais Lyon, ça continue avec la Cala. Vous êtes là, à la barre.
On est là. Et il n'en reste qu'un, comme disait.
Et Sylviane Irigoyenne est aussi parmi les fidèles donc de la compagnie, bien encore plus de 15 ans après la disparition de Rudy. Vous êtes toujours aussi engagé pour le chant et pour l'opérette.
Complètement. Et bientôt, en plus, on va faire Madrid aussi, le Prince de Madrid.
Oui.
Et c'est une belle production.
Au mois de mars.
Bon, alors il ne faudra pas rater ça.
Avec un ténor qui fait une très belle carrière. C'est Nicolas Gambotti, et je pense que c'est les bonnes relèves aussi, parce qu'il chante aussi de l'opéra lui aussi, et c'est un beau garçon et c'est une belle production.
Un petit mot pour finir encore de la personnalité de Rudy Irigoyen qu'on a évoqué ce matin, qui avait l'air d'un homme si charmant par les interviews que j'ai entendues. Il est mort à 81 ans. Qu'est-ce que vous mettriez en avant pour parler de lui en conclusion, Sylviane Irigoyen et Fabien Attias?
Sa simplicité, sa gentillesse. Il s'impliquait beaucoup auprès de Fabien parce que ça l'intéressait de voir quelqu'un qui, avec si peu de moyens, faisait des choses magnifiques. Et c'est vrai qu'il s'est complètement impliqué, même par rapport aux jeunes qui démarraient.
Il a essayé d'en former aussi, des jeunes chanteurs.
Oui, bien sûr. Et il donnait des conseils à des ténors. Il était là, toujours là. On le voyait dans la salle. Et il disait, il a fait une belle note. Et il était très content quand il y avait une belle note. Et il était là, toujours très calme, très souriant. Il était comme ça tous les jours.
Tourné vers les autres et pas seulement vers sa carrière.
Exactement, exactement.
Fabien Attias.
Je me rappelle d'un soir où on était invité chez lui par Sissi et il m'avait demandé, vous savez le grand baryton José Van Damme qui fait partie de nos amis aussi, et passé à Lyon régulièrement, il était passé pour les comptes d'Hoffmann à un moment donné, et Rudy m'a dit j'aimerais bien le voir, et José lui aussi, parce que j'étais passé à l'opéra et je le voyais, c'était la même distribution que Vanzo, et j'ai dit à José, il y a Rudy qui voudrait bien te voir, est-ce que tu vas trouver une soirée? Et on a fini par trouver une soirée, je l'ai emmené, on a passé une soirée exquise chez lui, où ils se sont racontés leurs souvenirs, et nous on était, autant Sissi que moi, on était absolument les yeux écarquillés d'entendre ces deux immenses personnages plaisanter, raconter des histoires, mais avec une simplicité incroyable.
Alors c'est à Lyon que Rudy Irigoyen nous a quitté le 24 octobre 2000, mais nous on reste avec lui encore en musique, et on va écouter, si vous êtes bien d'accord tous les deux, Granada, une très jolie mélodie.
Oui.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Fabien Attias, à bientôt j'espère.
Merci Benoît, quand vous voulez, je suis à votre disposition et toujours très heureux de vous voir.
Et merci Sylviane Irigoyen d'être venue évoquer Rudy.
Merci Benoît.
Granada, tierra soñada por mí, mi cantare se vuol veritano quando sparati. Mi cantare e ciò le fantasia. Mi cantare flore della melancolia. E io me vengo ad Granada, Manola, cantada en copia, preciosa. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosa. De sueño rebelde y fritora,
Granada, une chanson de Lara Agustín et Jacques Larue, interprétée par Rudy Irigoyen. Rudy Irigoyen que nous avons évoqué ce matin en compagnie de son épouse Sylviane et de Fabien Attias. Et puis donc, pour réentendre sa voix, je vous recommande de vous procurer les différentes compilations parues chez Marianne Mélodie, au moins 3 CD entièrement consacrés aux enregistrements de Rudy Irigoyen. Et aussi un livre qui a été édité par les amis de Rudy Irigoyen, 26 rue Roussy à Lyon, qui s'intitule « Irigoyen, ma vie d'opérette ».
Thank you.
J'aime beaucoup les polka mazurka au rythme à trois temps, très appuyé. Mais alors celle-ci, c'est vraiment un chef-d'œuvre de poésie et de tendresse, Fata Morgana, de Johann Strauss fils, son opus 330, interprété au cours du concert du Nouvel An 2005 par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, sous la direction de Laurine Mazel.
Benoît Dutertre. Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Et pour bien terminer cette émission, il est temps de retrouver maintenant notre ami Martin Péné qui va nous parler, comme il y a d'ailleurs déjà un mois, de Rissé Barrier. Bonjour Martin.
Bonjour Benoît.
Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de ces archives consacrées au regretté Rissé Barrier. La première partie, c'était le 17 décembre dernier. Aujourd'hui, on avance un petit peu dans la carrière de ce chanteur.
Oui, nous en étions restés aux années 60 et à l'époque, sa voix était déjà connue des enfants grâce à ses nombreuses participations aux aventures du petit ours Colargol et à la série télévisée Saturnin Canard. Vous vous souvenez peut-être?
C'était lui en fait.
Oui, c'était lui la voix de Saturnin. Et au début des années 70, il revient avec l'émission Barba Papa. Alors côté chanson pour adultes, ce qui est comme le sujet qui nous occupe davantage, la carrière de Rissé Barrier se partage désormais entre la Suisse, le Québec, la Belgique et bien sûr la France où il tourne beaucoup, notamment dans les MJC, car l'époque des cabarets est quasiment révolue au début des années 70. Et alors, Les Vacanciers a été un des tubes de l'année 68, mais elle entretient son image encore de chanteur paysan et continue d'occulter le reste de son œuvre, infiniment plus variée. Par exemple, une chanson comme L'Enterrement, où le mort parle de sa vie et de ses amours, qui est assez étonnante. Ou alors, dans un autre genre, Les Spermatozoïdes, qui donne son nom à un album sorti en 1975. Et c'est un sujet que Rissé Barrier est le seul à avoir chanté de cette façon. Mais comme la chanson dure 7 minutes et qu'à vrai dire, il est impossible de la chanter parce que ça raconte toute une histoire. Je pense que vous aurez peut-être plaisir un jour à nous la diffuser hors chronique, cher Benoît. Et sur ce même album de 75 figure Les Tractions Avant qui illustre le cousinage de Rissé avec le jazz cuivré, musique qu'il a toujours appréciée parce que, je cite, « même triste, elle reflète un bonheur de vivre ». Et 10 ans plus tard, pour l'émission Pollen de Jean-Louis Foulquier, Rissé Barrier est accompagné par la fanfare des Quatzars.
Allô? Allô, Henri? Ici André?
Ouais!
Dis donc, j'ai décidé de moderniser la France. Faut que je te voie. Dans 3 jours? D'accord. À Détroit. Monsieur André Citroën a vu Monsieur Ford Henri. C'est le travail à la chaîne. Il a ramené dans notre chère patrie. La France agricole devient industrielle grâce à des patrons comme lui. Les ouvriers se précipitent de Javel pour goûter les joies de ce progrès inouï. Plus de 100 à l'heure, des culbuteurs, carburateurs inversés. La monocoque ouvre une époque. Monsieur Citroën a gagné. Voici les tractions avant. Et avec leur moteur flottant. Les beaux cardans, homo cinétique. Voici les tractions avant. Et au salon, c'est l'affolement. Maman, à perle brun, plein d'émotions, fait marcher le klaxon. Comme elle est belle, elle a des ailes, c'est la traction universelle. Allô?
Les Tractions Avant dans l'émission Pollen en 1985, un enregistrement rare de Rissé Barrier, comme tout ce que vous nous proposez, Martin Péné.
Oui, dans les années 70-80, Rissé Barrier et son fidèle co-auteur Bernard Leloup travaillent, en plus des chansons, aussi sur des pièces de théâtre et des comédies musicales, notamment en Suisse. Et je pense à la pièce Les Ovules, qui prolonge malicieusement l'inspiration de sa chanson Les Spermatozoïdes.
Oui.
Et en 1977, Rissé Barrier refait un succès dans le registre paysan avec Il n'y a plus de sous. Et l'album qui sort à ce moment-là recèle d'autres perles comme la chanson folk « Belle qui tient ma vie » et un titre que j'ai un petit peu hésité à vous diffuser, « Putain, le beau métier ». Bon, mais il faut y entendre toute la truculence de Rissé qui signe ici une belle allégorie aux artistes en tout genre dont le propre est de devoir séduire leur public. Et j'y vois finalement beaucoup de tendresse et d'autodérision. Alors le voici dans un extrait de l'émission Libre Parcours présenté par Eve Reliquez sur France Culture en mai 1977.
Putain de métier, putain,
oh putain,
le beau métier,
oh putain,
être putain, quelle destinée,
oh putain,
donner aux hommes ce qu'on a de mieux, c'est tout le système du bon Dieu, joignant l'utile,
oh putain,
à l'agréable,
oh bon Dieu,
et le soulage le contribuable. Semant l'amour chez son prochain, sa seule mission, c'est avant tout de faire du bien. Il faut se donner, tout est là, comme dit monsieur le curé. Curé,
oh putain,
le beau métier,
oh putain,
lui aussi se donne en entier.
Oh purée,
offrant son toit, ouvrant son lit, même à des filles peu repenties, il tend les bras devant son hôtel pour attirer la clientèle. Calice, burette et accessoires,
ciboire,
il utilise tous les trucs de son répertoire pour chauffer le chrétien. Il faut bien être un peu cabotin ou baladin, baladin, le beau métier, moitié putain, moitié curé. C'est sur une scène qu'il fait le trottoir, et son calice c'est sa guitare. Avec son œil, il fait la quête pour convertir toutes les minettes. Quand on l'acclame, c'est Dieu le Père. Quand il se ramasse, c'est plutôt le Fils. Au calvaire, il reste hébété comme une pute qui n'a pas dérouillé. Putain de métier.
Brice et Barrier en public dans l'émission Libre Parcours de 1977. Putain, le beau métier. Très drôle, cette chanson, d'ailleurs.
Oui, je pense pas avoir choqué les oreilles chastes.
Non.
Bon, c'est comme je dis, c'est plein d'autodérision en même temps. Et donc, en 1978, Rissé Barrier sort l'album Mythologie, qui présente une vision empirique, coquine et surtout très personnelle de l'Antiquité. Alors, les chansons s'intitulent Bacchus bourré, Diane, Les Amazones, Écho et Narcisse, La boîte à Pandore. Il aimait bien de temps en temps faire des fautes de français, mais tout à fait consciente.
Ah oui.
Et ainsi de suite. Personnellement, j'ai un faible pour Pénélope et je vais vous la faire entendre dans une version radio de mars 1983 pour le tribunal des flagrants délires. Et je tiens quand même à préciser que l'année précédente, en 82, les frères Jacques ont à leur tour enregistré l'intégralité de l'album Mythologie, qui est en fait leur dernier disque. Et ils auront au total interprété une vingtaine de chansons de Rissé Barrier depuis la fin des années 50, ce dont je crois qu'ils étaient assez fiers.
C'est un autre sujet que tout le monde connaît, enfin qui est tiré de la mythologie. C'est tout un spectacle, cette mythologie, ça dure une heure. Et là, on va parler d'une dame qui s'appelle Pénélope, que tout le monde connaît. Mais on est en droit de se poser quelques questions à son sujet. Pénélope, c'est une sainte, mais si elle feinte,
c'est une
varlope. Grand rabot à poignée qui se manie à deux mains. Pénélope dans son village est penchée sur son ouvrage. Elle enfile un fil dans un petit trou. Elle coud. En fil d'or, en fil de soie, un linceul pour beau papa. En attendant qu'Ulysse revienne de la guerre de Troie et des Troyennes. Ouais, on parle toujours de sa fidélité, mais en fait on ne sait pas ce qui s'est passé, car il ne faut pas oublier qu'elle avait 100 mecs à côté. Pénélope. C'est
une sainte,
mais si elle feinte, c'est une cocotte. Le terme d'encouragement adressé à un cheval. Les uns disent, elle est fidèle, de la vertu, c'est le modèle. Les autres n'ont qu'un mot à la bouche, elle couche, elle couche, elle couche. Ses volets restent fermés, qu'est-ce que ça peut bien cacher? Est-ce pour le deuil de son mari ou pour calmer ses appétits? Ouais, quand un époux s'en va pendant 10 ans, laissant sa femme avec 100 prétendants, c'est qu'il est vraiment inconscient ou qu'il s'en fout éperdument. Pénélope,
Pénélope,
c'est une sainte,
une sainte,
mais si elle feinte,
c'est une
sainte. Carotte! Belle plante potagère à racines pivotantes, riche en sucre. Prenait-elle pour rester seule du bromure dans son tilleul? Et plutôt que des hommes dans sa couche, des douches, des douches, des douches. On ne le saura jamais, dès qu'Ulysse réapparaît par un orgueil bien masculin, il supprime tous les témoins. Ouais, la Pénélope, elle a bien laissé faire, ni vu ni connu, je t'embrouille mon pépère. Avec du fil et une aiguille, c'est fou ce qu'une femme vous entortille. Pénélope.
Pénélope en 1983 dans le tribunal des flagrants délires du cher Claude Villers qu'on salue, et on continue à parler ensemble avec Martin Penet de Rissé Barrier.
Oui, alors si vous voulez en savoir davantage sur le parcours et les personnalités de Rissé Barrier, je vous recommande la lecture du livre de Bernard Kerruel, Le savoir-vivre de Rissé Barrier, paru récemment dans les collections Cabaret aux éditions de l'Harmattan. Cette collection, je vais en dire quelques mots, elle a été lancée en 2007 et dirigée par Christian Stalla, qui a bien connu ce petit monde puisqu'il a lui-même beaucoup chanté dans le quartier Mouffetard à la grande époque des cabarets. Et donc elle compte actuellement 37 volumes qui sauvent des pans entiers de la mémoire si évanescente de l'histoire du spectacle. Certains concernent la vie des établissements comme l'Écluse, chez Georges, les petits lieux de Belgique, la chanson de proximité, les compagnons pianistes. D'autres sont consacrés à des chanteurs de différentes époques comme Pierre Louky, Marc et André, Maurice Fanon, Marcel Leguet, Jacques Cerisier, Les Trois Horaces ou encore Pierre Vassiliou. Eh bien, je vais terminer cette chronique avec Pierre Vassiliou. Nous allons entendre un numéro un peu particulier de la célèbre émission de Jean Fontaine Disco Parade, enregistrée en public au Music Hall de l'Alhambra. En effet, le 14 mars 1965, c'est Charles Aznavour, et non pas Jean Fontaine, qui présente une soirée organisée au profit des anciens combattants de l'ORTF. Et parmi les jeunes artistes participants figure Pierre Vassiliou, un autre fantaisiste de la chanson, parfois corrosive en ce qui le concerne, et que l'on présentait souvent à l'époque comme étant à la limite du carré blanc. J'ai entendu ça dans des archives, ça m'a bien amusé. Et je trouve que cela fait un bon pendant à notre ami Rissé Barrier. Vassiliou affectionnait au début de sa carrière des chansons consacrées à des personnages dont les prénoms servaient de titre. Alors il y a eu Armand, Georgette, Eugène ou encore la fameuse Charlotte.
Il est aussi auteur-compositeur, mais d'un genre tout à fait spécial. Vous le connaissez déjà. C'est Pierre Vassiliou.
J'ai un négoce dans la Creuse, les gosses légueuses viennent chez moi. On peut trouver des vareuses, des assiettes creuses et du lilas. Je vends des nouilles à la sauvette, les jours de fête dans le métro. Je vends des enclumes, des castagnettes, des salopettes, des sacs à dos. Je peux pas dormir sans qu'on cogne et sans vergogne à mon chez-moi. Toc, 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 qui est là, qui frappe à ma porte? Est-ce toi la Charlotte? Est-ce toi ma bien-aimée? Oui, c'est moi la Charlotte, je viens chercher ma culotte. Ouvre vite beau culottier, fais pas chaud dans ton quartier. Je vis dans une douce inquiétude, je fais des études sur le nougat. Papa, je lui dis de tirer la chevillette, mais la pauvrette s'y prend les doigts. Je les sélectionne dans l'encoignure, à la jointure, hurle à la mort. Disant que chez moi, il y a des sorcières qui par derrière lui jettent des ressorts. Elle n'est pas possible, cette dragonne, oh la pauvre bête, je la fous dehors. Toc, 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 qui est là, qui frappe à ma porte, que personne ne bouge, c'est peut-être le chaperon rouge. Non, c'est moi, la Charlotte, je viens chercher ma culotte, je sais qu'elle est dans la caisse, qui doit être entre tes fourbiers. Je voudrais regarder dans ma caisse, oui, mes drôlesses, c'est fatigant. Et comme j'ai des varices, des rhumatices, c'est imprudent. Va voir chez la petite Yvette, dans la casquette et les petites mains. Tu trouveras bien une liquette un peu coquette qui t'ira bien. beurre, je suis à la bourre, et puis en amour, je suis incertain. Toc toc toc, tic et tac, tic tic frappe à ma porte, ce n'est pas la Charlotte, mais René son bien-aimé. Assieds-toi ma cocotte, tu m'as l'air un peu palote, entre vite mon beau René, nous avons à tricoter. Cric cric crac, je suis chez moi, et personne n'a le droit d'entrer, allez vous faire rhabiller, car mon gars m'a raté là.
Et d'un fantaisiste à l'autre, c'est avec Pierre Vassiliou et Charlotte en 1965 que nous terminons cette double chronique consacrée à Rissé Barrier. Merci Martin Péné et merci de nous avoir signalé cette collection aussi chez l'Harmattan. Rissé Barrier nous a quittés en 2011, Pierre Vassiliou en 2014, mais voilà.
C'est et donc vous pourrez retrouver leur biographie donc dans cette collection Cabaret qui s'enrichit de mois en mois. Et je remercie Lina et plus particulièrement Marine Decamp et Catherine Louboutin qui vont nous permettre de découvrir encore chaque mois de nouveaux trésors chantés.
Voilà, on les attend avec impatience. Merci Martin Péné, à bientôt.
Merci Benoît.
Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique Pierre Mine, réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, je vous ferai découvrir un personnage haut en couleur puisque je recevrai Zouzou, la twisteuse. Bon week-end à tous sur France Musique.